Bonjour Christine.
Bonjour Yasmine.
Alors aujourd'hui, on va parler des origines de la prison en Afrique. On dit souvent que la prison est une invention de la colonisation, que c'est le colonisateur européen qui a apporté la prison en Afrique. Qu'en est-il vraiment ?
Alors effectivement, la prison en tant que sanction, c'est-à-dire l'enfermement pénal à vocation punitive, est relativement absente de l'ensemble du continent africain avant l'intrusion européenne. Il existait bien sûr des formes de réclusion ou de claustration, mais qui étaient des formes rituelles, économiques, militaires de réclusion. Par exemple, on informait des individus pendant la période d'initiation. Donc c'était pour des motifs particuliers, c'était pas pour punir les individus qu'on les enfermait.
Mais alors, on ne punissait pas les crimes en Afrique ?
Bien sûr que si, on punissait les criminels comme partout ailleurs, mais selon des modalités différentes. Par exemple, on exigeait des condamnés des réparations, ou on leur infligeait des châtiments corporels, on les exécutait, le cas échéant, mais aussi une des sanctions probablement les plus répandues, surtout dans des sociétés dites lignagères, c'est-à-dire où la communauté de base était la plus importante, c'était l'extraction de l'individu de sa communauté, c'est-à-dire l'exil. Donc on ne l'enfermait pas, ou alors plus ou moins on l'enfermait dehors. On ne l'enfermait pas entre quatre murs, mais le fait de l'extraire de sa communauté était une des sanctions les plus graves qui pouvaient lui arriver.
Donc on a bien raison de dire que les prisons, en tant qu'espace fermé et punitif, ont commencé avec la période coloniale.
Alors oui et non. Non, parce qu'en fait, là, on parlait à l'instant des sociétés lignagères, mais il a aussi existé dans la période précoloniale des sociétés centralisées et militarisées, des empires, des royaumes, des sultanats. Et là, dans ces cas-là, il a existé des cas dans lesquels on a des traces écrites et archéologiques où il existait ce qu'on pourrait appeler des proto-prisons. Alors très souvent, c'était dans des royaumes, un souverain qui enfermait des proches, ou des dirigeants proches de lui déchus, qui, en fait un souverain qui craignait pour sa puissance et pour le maintien de son pouvoir. Alors on a des exemples de ça, par exemple dans l'Empire du Ghana, dès le XIIIe siècle. Alors l'Empire du Ghana, juste petite précision, c'est à cheval sur le Mali et la Mauritanie actuelle, hein, pas au Ghana actuel. On a aussi des traces de ça dans l'Empire éthiopien au XVIIe siècle, le royaume de Bénin. Et un exemple assez connu, c'est un grand nombre de proto-prisons dans les sultanat du nord du Nigeria. Et là, sur l'image qui apparaît maintenant, on peut voir une reconstitution dans un musée actuel d'une proto-prison qui utilisée par le sultan de Kano pour enfermer en fait ses rivaux et ceux dont il avait peur, dont il se méfiait, construite au XVe siècle.
Il me semble qu'on a un exemple aussi dans le Bouganda.
Oui, alors par exemple au Bouganda, donc colonisé par les Britanniques à la fin du XIXe siècle, auparavant, le souverain du Bouganda a fait en fait jeter dans des fosses profondes ses proches, ses sœurs, ses frères, soupçonnés ou en tout cas dont il avait peur qu'ils usurpent son pouvoir. Et ces fosses, donc des grandes fosses protégées par des hauts bâtons, sont à l'heure actuelle un musée près de Kampala. Donc il y avait ces fosses quand même d'enfermement précolonial.
D'accord, on a parlé là de l'enfermement de la haute société qui pouvait menacer le pouvoir, mais il n'y avait pas aussi l'enfermement d'esclaves dans le cadre de la traite négrière ?
Alors oui, c'est même une chose extrêmement importante en fait. L'enfermement des esclaves a été en fait un avant-goût pour les Africains de ce que pouvait être l'enfermement et l'emprisonnement en plus de manière massive. Et il est intéressant de noter que donc, dès le début de la traite esclavagiste, hein, au XVe, XVIe siècle, on a l'installation tout le long de la côte atlantique, mais aussi sur la frontière orientale, hein, parce qu'il y a aussi une traite orientale, des forts militaires dans lesquels on stocke les esclaves, c'est comme ça qu'on peut dire, hein, puisqu'il s'agit de marchandises à l'époque, des bateaux pontons aussi, sur lesquels les esclaves attendent en fait la grande traversée, et également ce qu'on appelle des barracones, qui sont en fait des espèces de campements complètement sommaires en paille ou en bambou, dans lesquels on va parquer, mettre en quarantaine les esclaves avant leur départ. Ils peuvent rester parfois des dizaines de jours, hein, sans alimentation, enfin, c'est des conditions assez terribles, et ce qui est assez intéressant et qui montre que cet enfermement, en fait, anticolonial a vraiment marqué l'histoire du continent, c'est que dans certaines langues africaines, notamment en Kikongo et en Lingala, des langues parlées au Congo par exemple, on parle de la prison, on dit dans ces langues « boroko », qui vient directement de ce mot « barakons », donc dans une forme d'emprisonnement esclavagiste précolonial.
D'accord. Et alors, le moment de rupture, ce qui aurait été apporté par le colonisateur, c'est plutôt la prison comme un système administratif, structure organisée?
Oui, tout à fait. Et alors, pour l'ensemble du continent, c'est assez difficile d'établir une chronologie générale, hein, puisque les situations sont très variées, vu l'immensité du continent. Mais en gros, on peut dire que plutôt les Européens s'installent dans un territoire et plutôt se créent les prisons et le système pénitentiaire. Alors, un des cas les plus intéressants, c'est celui le plus ancien même de prison en Afrique, c'est celui de la célèbre île-prison de Robben Island, au large du Cap en Afrique du Sud, qui a en fait été inaugurée en tant que prison dès le milieu du XVIIe siècle, à l'arrivée des Hollandais. Et qui est resté prison pendant plus de 3 siècles, hein, ensuite. Donc c'est une prison ancienne. Mais ailleurs, c'est surtout au tournant du 19e, 20e siècle, vraiment avec l'installation des administrations coloniales et leur implantation réelle sur les territoires, qu'on voit se développer des prisons et le système juridique en tant que tel qui va permettre d'emprisonner les gens.
Et donc on peut dire que c'est vers la fin des années 1800 qu'on voit se construire en Afrique des prisons avec des murs.
Oui, alors ça se fait comme ça. Au Nigeria par exemple, à Lagos, la première prison qu'on pourrait dire moderne est construite dès 1872. Et juste avant la Première Guerre mondiale, on compte pas moins de 110 prisons sur l'ensemble du territoire, donc à l'époque occupé par les Britanniques. C'est quand même assez important. En quelques années, il y a beaucoup d'installations pénitentiaires. Et ensuite, partout ailleurs, c'est en fonction de l'installation des systèmes juridiques, de l'évolution du droit colonial et indigène, que vont s'installer les prisons. Mais ailleurs, au début de la colonisation, il arrive quand même qu'on fasse un petit peu avec des bouts de rien et que les administrateurs coloniaux ou les militaires se débrouillent comme ils peuvent. Donc on peut emprisonner un Africain dans un stock de nourriture du fort, dans la chambre d'une résidence de l'administrateur colonial. C'est un peu des modalités ad hoc pour emprisonner les individus. Par exemple, là, sur la photo qui apparaît à l'écran, on peut voir le Boma de Gitega. C'est un fort militaire construit par les Allemands en 1912, qui en fait n'était pas une prison, hein, c'était destiné à héberger la garnison allemande, mais c'est là, on peut dire, qu'a été en fait la première prison dite moderne du Burundi à l'époque allemande. Il n'y avait pas de prison à l'époque construite en tant que telle.
Et ensuite, donc, vont se mettre en place de véritables politiques pénitentiaires avec des lieux d'enfermement dédiés.
Oui, surtout à partir du début du XXe siècle, en fait, à fur et à mesure que l'évolution du droit colonial et indigène se fait sur le continent. Alors je parle de droit colonial et indigène en distinguant un petit peu parce que les systèmes pénaux ne sont pas les mêmes qui sont appliqués à ceux qu'on appelle les indigènes, c'est-à-dire les Africains, et aux Européens qui sont sur place. Donc cette distinction va d'ailleurs faire des choses ensuite à l'intérieur des prisons, hein. On ne va pas traiter de la même manière les Européens et les Africains. Mais donc c'est à mesure que s'installent ces systèmes juridiques que vont être vraiment mis en place des politiques pénitentiaires, et qui dit politique pénitentiaire dit construction de bâtiments pénitentiaires, donc de bâtiments dédiés à la fonction carcérale, à l'enfermement des condamnés. Alors, par exemple, pour reprendre le cas de l'Afrique belge que je connais mieux que les autres, si on regarde les politiques pénitentiaires belges, on voit que dans les années 20-30, donc quand s'installe vraiment le système pénal dédié aux indigènes, se construisent, alors par exemple, on voit sur l'image une prison d'abord à Gitega, au Burundi, en 1926, faite de briques et de pierres, puis 2 ans plus tard, sur un modèle un petit peu plus élaboré, mais qui reste un petit peu le même, un modèle de fort, on a la construction de la prison de Stanleyville actuelle Kisangani en République démocratique du Congo. Puis ensuite, forme d'aboutissement un petit peu de cette homogénéité des prisons, de l'architecture des prisons belges, arrive la construction en 1930 de la prison de Kigali. Et on voit bien sur ces images qu'il y a quelque chose qui relève de l'ordre, oui, d'une architecture commune qui se crée. Donc il y a une véritable volonté de construire des prisons sur des modèles bien précis.
Alors ces prisons sont presque centenaires, un siècle ça commence à faire beaucoup. Est-ce qu'on peut dire que la prison et l'enfermement, ce sont maintenant un fait social ancré en Afrique ?
Ah oui, c'est maintenant un fait social ancien, bon, qui a été plus ou moins approprié dans les différents pays. Mais ce qu'on peut dire, c'est que c'est un fait social ancien, mais d'impulsion et d'inspiration largement extérieure. Et d'ailleurs, je reviens à ces questions de vocabulaire qui m'intéressent bien parce que le vocabulaire et ce qui imprègne une langue, c'est toujours assez symptomatique de quelque chose. Je parlais tout à l'heure de Boroko, qui veut dire donc prison en Lingala et en Kikongo, venant du terme Barakons, qui était un terme hispanique. Dans les langues comme par exemple le Kirundi, qui est la langue nationale du Burundi, donc ex-Afrique belge, on parle de Agacho pour dire la prison, qui vient directement du français cachot. Dans toute l'Afrique orientale, où on parle le Kiswahili, une langue véhiculaire, on va parler en fait de Jela en Kiswahili pour dire les prisons, qui vient directement de l'anglais jail. Donc ces dérivations sémantiques, cette imprégnation sémantique est vraiment tout à fait descriptive en fait. Elle incarne cette extériorité du phénomène carcéral en Afrique.
Merci Christine, et à bientôt pour poursuivre l'histoire de la prison en Afrique.